Comme les brillants entrepreneurs, épargnez chez Suno Assurance pour garantir le financement de vos projets. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il y a environ 40 ans, No Future était le slogan provocateur de jeunes punks pour affirmer leur rejet de la société et marquer leur rupture avec le monde des adultes. Aujourd'hui, l'absence de perspective d'avenir n'est plus le fait d'un mouvement culturel ou musical contestataire, non. Cette inquiétude face aux incertitudes du futur marque toute une génération, assaillie d'informations, le plus souvent inquiétantes, sur le climat, sur l'emploi, doutes sur la stabilité familiale ou amoureuse, interrogations sur la sécurité, sur la santé, un environnement déstabilisant qui peut susciter de véritables angoisses chez certains, une anxiété susceptible de menacer leurs projets, de bloquer leur cheminement et au final de limiter dans les faits leurs perspectives d'avenir. Aujourd'hui, nous allons précisément évoquer les causes de ce pessimisme ambiant, mais aussi et surtout tenter avec notre invité de définir des pistes, des réflexions pour en sortir et ouvrir d'autres portes. Réapprendre à faire confiance, reprendre courage, résister à la mélancolie du futur. Si vous avez des questions, un témoignage à apporter, appelez-nous 33 84 22 75 75 ou laissez-nous votre message sur notre page Facebook. Apporter des appuis concrets de réponse à tous ceux qui cherchent un apaisement à leur angoisse de l'avenir. Citation de votre ouvrage, La peur du futur, comment ne plus s'angoisser. Docteur Alain Braconnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychologue, ancien directeur de l'association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, responsable de la formation à la pratique de la clinique des thérapies psychanalytiques à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Votre livre est publié aux éditions Odile Jacob. Tout à l'heure, nous allons rejoindre au Bénin le professeur Prosper Gandao, chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental et universitaire de Borgou à Parakou, le professeur Gandao qui enseigne la psychiatrie pour les adultes à l'université de Parakou. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Alain Braconnier, alors est-ce qu'aujourd'hui cette peur du futur, qui donne donc son titre à votre dernier livre, est-ce que c'est une source de préoccupation pour beaucoup de patients qui viennent en consultation ?
Oui, tout à fait. Depuis au fond, disons une dizaine d'années, cette préoccupation est devenue de plus en plus pressante dans les personnes que je reçois. Les préoccupations habituelles sont toujours là. Les préoccupations du présent d'abord, les préoccupations qui peuvent renvoyer à des problèmes du passé, à des traumatismes. Mais c'est vrai que j'entendais de plus en plus souvent, et je suis pas le seul, une préoccupation sur qu'est-ce qu'on va devenir ? Comment les choses vont évoluer pour nous-mêmes, pour notre travail, pour nos enfants, pour nos moyens d'existence d'ailleurs. Et cette préoccupation se tournant beaucoup plus sur le futur par rapport à ce que j'entendais par le passé a été vraiment à l'origine de ce livre. C'est-à-dire, j'avais à y répondre au fond, et peut-être à y répondre plus qu'avant. Et donc, j'ai été obligé de m'interroger, d'écouter d'abord pour bien comprendre quelles étaient les craintes les plus fortes ou les plus difficiles à assumer. Et trouver évidemment des pistes ou partager des pistes avec les personnes qui me disaient au fond on est vraiment inquiet sur ce qui va se passer.
C'est un sentiment ambiant parce que vous pointez justement ce renversement. Hein. Avant, on s'allongeait sur le divan, on venait parler à un thérapeute parfois face à face, on racontait son enfance, la relation avec les parents. Maintenant, on dit j'ai peur de demain. Je dis pas j'ai souffert d'hier, mais j'ai peur de demain. Est-ce qu'il y a un moment pivot justement où c'est mis à parler de demain et non plus d'hier ?
J'aurais des difficultés à répondre à votre question précisément. Je pense quand même qu'il y a eu un balancement au moins à deux moments. Le moment d'abord où chacun a pris conscience que les nouveaux moyens de communication, les nouvelles technologies envahissaient de plus en plus le monde. On s'est confronté il y a 20 ou 30 ans à l'ordinateur, et là on se confronte à beaucoup beaucoup de nouveaux moyens dont on maîtrise évidemment pas toujours les possibilités, dont on connaît les avantages, et on essaye d'ailleurs de posséder ces moyens, mais on ne connaît pas ces possibilités. Ça a été une première bascule. Et puis une deuxième bascule, alors qu'elle était là depuis longtemps, et là je crois que on est tous quelque part responsables, mais ceux qui ont la responsabilité de nos vies, je parle des politiques, des représentants des grands groupes, représentants du personnel, eh bien ils ont été un peu lents à se préoccuper de ce qui pouvait se passer pour le futur. Et ça, c'est le problème de la planète. Et qui touche tout le monde. Au fond, on est dans une globalisation des problèmes. Et que là, cette bascule, elle a probablement été, en tout cas, perçue par tout le monde de façon plus récente. Il y a peut-être 5 ou 10 ans. Alors que c'était là. On en parlait déjà.
Ça veut dire que les deux facteurs en même temps, d'une certaine manière aussi, ces nouvelles technologies sont de nature à exacerber cette peur pour l'environnement, mais qui est bien réelle, hein. Les risques sont là. Il n'empêche, l'information, ce déluge d'informations, il nous suit, on va dire, jusque dans notre intimité avec nos téléphones où les informations arrivent. C'est pas question maintenant d'éteindre le flot d'informations. Il est toujours avec nous.
Oui, il est toujours avec nous. Et alors là, je pense que on a évidemment une curiosité sur ce qui nous arrive. Cette curiosité, moi, je la défends et je pense qu'elle est importante. Je dis même qu'il faut essayer d'être encore plus curieux qu'on est, parce qu'on a toujours tendance à retenir ce à quoi on est habitué, ce vers quoi on va spontanément. Ça, c'est un mécanisme psychologique qui est qu'on est plutôt convaincu par ce par quoi on est déjà convaincu. Donc, je suis vraiment favorable à une curiosité permettant de croiser les informations et de pas rester uniquement sur les informations qu'on a l'habitude d'écouter, auxquelles on a l'habitude sur lesquelles on a l'habitude de se pencher. Donc, évidemment, elle nous arrive. Personnellement, elle nous arrive, comme vous le dites très justement, jusqu'à toucher notre intimité, et que ça, c'est quelque chose qui est quand même, on n'en fait plus quelque chose d'extérieur, on fait quelque chose qui nous touche vraiment personnellement.
Peut-être qu'il faut remettre des limites, en tout cas d'un côté il y a cette peur, docteur Alain Braconnier, de l'autre il y a le sentiment d'angoisse. Alors comment il se définit ce sentiment, même qui peut aller jusqu'à la maladie, l'anxiété, comment en termes cliniques on le repère ?
Oh, c'est une préoccupation. C'est d'abord l'expression d'une préoccupation qui peut se manifester corporellement. C'est-à-dire, on se sent moins bien, on se sent moins bien dans sa peau. Il y a des moments où on dort moins bien. Il y a des moments où, justement, on est pris quand même, ça nous serre le ventre et on a du mal à se sentir bien dans son corps. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui nous habite dans notre esprit et qui s'accumule. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas une solution dans ce qui nous habite dans notre esprit comme préoccupation sur le futur, eh bien, ça se renforce. On ne trouve pas la solution. Et quand on ne trouve pas la solution, c'est ce qu'on appelle, nous, une surcharge mentale. C'est-à-dire que ça nous pèse. Ça nous pèse, disons, sur nos... Les expressions sont toujours très justes. Ça nous pèse sur nos épaules parce que ça nous pèse dans la tête.
Et ça peut altérer aussi la relation avec l'entourage, avec le milieu professionnel, le milieu familial, ce repli sur soi, face justement à ce sentiment d'angoisse. Est-ce qu'il peut y avoir jusqu'à des troubles de l'humeur ?
Ah oui, parce que... les troubles de l'humeur, c'est au fond plutôt l'humeur. Il y a des bonnes humeurs et des mauvaises humeurs. Les troubles de l'humeur, c'est plutôt le pessimisme, la tristesse, la colère. Et ces troubles de l'humeur sont liés justement à quelque chose qu'on n'a pas su, au fond... auquel on n'a pas su faire face ou auquel on n'a pas pu faire face.
Des fois, quand on vous lit, on se demande qui parle, docteur Alain Braconnier. C'est le psychiatre ou plutôt le philosophe de son temps ? Parce qu'il y a beaucoup d'actualités. On regarde monde, on regarde les gens, c'est d'accord. On regarde certaines pathologies, ok, mais on regarde surtout le monde qui nous entoure.
Vous savez, le psychiatre, il a deux appuis. Il a la médecine, le corps, le cerveau. Et puis, il a un appui qui n'est pas la médecine, qui est la philosophie, je trouve que c'est une association tout à fait juste, qui fait qu'il faut réfléchir, qu'il faut, on a un esprit, et que cet esprit, il faut l'utiliser, il faut savoir imaginer, il faut savoir rêver, et ça, j'insiste beaucoup dans ce livre sur comment pouvoir rêver, comment pouvoir imaginer, parce que vraiment, ça fait partie de nos capacités humaines.
Alors, Alain Braconnier, un livre au cœur de l'actualité, avec l'identification d'une angoisse directement associée aux craintes sur cet environnement, ce changement climatique, hein, vous l'avez dit, et avant votre réaction sur ce nouveau thème, cette nouvelle maladie qu'on dénomme désormais l'éco-anxiété, une illustration. Reportage dans les rues de Paris, c'était la semaine dernière, le 15 mars, collégiens, lycéens. Ils ont marché dans les rues de la capitale française, donc pour le climat. Dans ce cortège, Raphaël Constant a recueilli ses témoignages. Ils ont entre 12 et 23 ans et se mobilisent pour la planète avec, ils ne s'en cachent pas, de réels sentiments d'angoisse au sujet de ces questions.
Et 1, et 2, et 3 degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et 1, et 2.
Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Alors je pense que c'est assez évident, on est là pour manifester notre mécontentement envers l'inaction politique pour le climat et l'environnement. Et on considère que notre génération va être celle qui va souffrir le plus pour l'inaction du gouvernement, donc c'est pour ça qu'on voudrait un petit peu des actions maintenant.
Ce qui nous fait peur, c'est justement d'avoir, là on étudie pour avoir un avenir, mais l'avenir dans une planète où on pourra peut-être même pas avoir un avenir, ce sera un peu, ce sera problématique en fait.
Tout se remplit de détritus, l'air se détériore, la mer, bah voilà, il y a un continent de plastique, tout ça, bah oui, ça me fait peur parce que j'ai pas envie d'un avenir dans une planète comme ça.
Et au niveau de votre santé, est-ce que c'est des questions que vous vous posez ?
Alors moi personnellement, donc j'ai fait mon TPE sur la pollution. Donc je me suis vachement renseignée sur les effets de la pollution sur notre corps et c'est effrayant et on en parle très très peu. On parle que quand il y a des pics de pollution, ce qui est grave.
En quoi le réchauffement climatique, ça vous effraie, ça vous fait peur ?
Déjà les pesticides, enfin, on voit déjà les conséquences aujourd'hui de notre alimentation qui est notre première médecine et qui est en train de nous détruire, des vêtements qu'on porte qui nous rendent malades. On ne sait plus comment faire pour sortir de cette société au bout d'un moment, donc ça devient vraiment compliqué. Ça va être bizarre ce que je veux dire, mais il faut avoir peur un peu de tout. Allô papa, allô maman, il serait temps de vous réveiller. Bonjour. Non, il est temps de se lever, c'est pas une question d'âge. Et c'est réel quoi, c'est là. On n'a plus le temps et nous on est jeunes et moi j'ai pris le choix que j'aurai pas d'enfant plus tard. Parce que je vais pas mettre au monde un enfant dans le monde qu'on va avoir demain quoi. Non.
Qu'est-ce que vous avez écrit sur vos pancartes ?
Alors moi il y a écrit « Je marche aujourd'hui ». Pour ne pas nager demain.
Pas de nature, pas de futur.
Pourquoi ? Parce que le futur, ça vous angoisse ?
Il n'y en a pas tellement de futur, quoi. Donc si on continue comme ça, il n'y a pas de futur. Donc, moi, j'aimerais bien avoir des enfants et qui vont être comme moi, c'est-à-dire avoir encore le temps de connaître ce que c'est que la nature. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression que si on continue comme ça, ça va se passer comme ça.
Quand on aura des enfants, on aimerait bien leur dire que les abeilles, c'est pas des animaux imaginaires.
Les ours polaires qui vont finir par disparaître, la banquise qu'ils font et des choses comme ça. On aimerait bien leur montrer cette faune incroyable que nous procure la Terre.
On n'est pas capable de récupérer trois migrants. Du coup, s'il y en a 1000, bah, ça va partir en guerre totale. Donc c'est assez angoissant parce que c'est notre futur.
La pollution a commencé à abîmer nos poumons. On a des problèmes respiratoires maintenant. Ça crée beaucoup de problèmes et faut y remédier parce que sinon au final on va en finir par en mourir en fait.
Le fait qu'il y a beaucoup plus de cancers du poumon, que ça va pas du tout, il y a évidemment un impact sur notre santé, mais moi en vrai à mon échelle je m'en fous, c'est de me dire que mes enfants, mes petits-enfants, que peut-être que bah ils naîtront pas comme moi quoi, ils auront pas de chance.
Il y a quand même un continent qui s'est créé juste avec des matières plastiques et ça fait extrêmement peur. Ça veut dire qu'en fait il y a énormément de pollution. C'est si on continue comme ça, on mourra tous et on pourra pas dire que c'est la faute des autres, ce sera notre faute à nous en fait.
Témoignage de jeunes dans les rues de Paris, c'était le 15 mars, reportage de Raphaël Constant. Cette anxiété climatique, docteur Alain Braconnier, ça peut se traduire par quel type de symptômes ? Est-ce que ça existe vraiment ?
Ah oui, oui. Là, les témoignages qu'on vient d'entendre sont vraiment des témoignages, je trouve, justifiés au sens où les arguments donnés sont tout à fait partagés par, au fond, par tout le monde.
Et ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des réalités.
Ce sont des réalités et toute la question est de savoir comment prendre en compte ces réalités. La dernière jeune fille qui parle là, c'est très juste qu'elle dit si nous on s'en occupe pas, on pourra nous le reprocher, et c'est ce qu'ils reprochent aux générations antérieures, et ils ont pas tort. Moi, je fais partie des générations antérieures, et c'est vrai que de temps en temps, je me dis quand même, j'aurais pu faire un petit peu plus attention à ce qui était en train de s'annoncer. Donc,
Vous êtes psychiatre, vous êtes thérapeute. Est-ce que ça veut dire que déjà marcher comme ça, se mobiliser, c'est quelque chose qui est bon pour faire partir certaines angoisses, se sentir dans cette foule, sentir qu'on n'est pas seul? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, un engagement militant qui peut aussi aider ces jeunes, s'ils sentent justement une angoisse par rapport à ce climat, à sentir qu'ils deviennent réellement acteurs de cet avenir?
Oui, moi je trouve que c'est toujours important de pas être seul. Quand on est en difficulté, au fond, il y a quelque chose d'humain, et mon métier, évidemment, me le prouve, et je donne des exemples dans ce livre qui le montre, d'ailleurs. On ne peut pas être seul. Alors, après, le côté militant, le côté, au fond, révélation du problème, il est très justifié, je le défends vraiment. Après, c'est que faire ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut agir de façon militante en réclamant, évidemment, aux autres ou à la société ou, disons, à ceux qui nous gouvernent d'agir, ou en tout cas de faire des propositions, sûrement. Mais les actions, elles doivent être aussi locales. Et quand je dis local, c'est non seulement dans des petits milieux, et j'ai des exemples très concrets, mais aussi avec soi-même. Au fond, on a beaucoup plus la possibilité, chacun à notre niveau, de changer nos désirs plutôt que changer le monde. Je donne un exemple. On parle du plastique. Eh bien, le plastique, c'est vrai. C'est vrai que vraiment, on découvre combien le plastique, on l'a utilisé, largement utilisé, et qu'il envahit maintenant, comme disait une auditrice, une jeune auditrice, là, dans ce
Une jeune manifestante, oui.
Dans ces manifestantes, on voit bien que ça constitue quasiment un continent. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, à ce moment-là, on peut chacun agir à notre niveau. On peut ne plus jeter des sacs en plastique. Un sac en plastique, dans les pays occidentaux, ça dure, je crois, 10 minutes. Donc, et puis on le jette. Bon. Et puis maintenant, on commence d'ailleurs un petit peu à ne plus utiliser le plastique. J'écoutais même, parce qu'il faut aussi avoir un peu de sourire, un peu d'humour, qu'il faut changer ses brosses à dents, c'est-à-dire plus prendre des brosses à dents en plastique.
Bon. Ils s'en fabriquent maintenant en bambou, il y a des matériaux plus recyclables, écolo-compatibles.
C'est très bien, je trouve ça très très bien. Donc chacun agir à son niveau, et puis aussi agir de façon locale, c'est-à-dire au fond... j'ai un exemple que j'avais trouvé en réfléchissant sur ces questions. En France, en Bretagne, il y a un endroit qu'on appelle les îles du Ponant, c'est des petites îles au large de la Bretagne. Eh bien là, tout le monde s'est mis en route, et le responsable de cette communauté des communes, comme on dit, le maire, a agi et fait que ils auront une électricité autonome qui sera plus une électricité, qui sera une électricité qui viendra
du continent,
et ils deviendront autonomes. Et je trouve que c'est un très bel exemple qu'on peut agir, mais localement.
Forme aussi de réappropriation, ne pas se laisser submerger par la menace extérieure et se réconcilier d'une certaine manière avec son environnement. Si vous le voulez bien, docteur Alain Braconnier, on va poursuivre cet échange, mais tout de suite, on donne la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
RFI.
Alors, le premier de ces auditeurs nous appelle du Mali, de Koutiala, et c'est Oumar. Bonjour, Oumar.
Bonjour, Caroline. Bonjour, docteur.
Bonjour, monsieur.
Le docteur Braconnier vous écoute. Allez-y.
Je suis étudiant. J'ai 24 ans d'âge. Au fait, j'ai fait de mon futur. Je me pose souvent la question, est-ce que mon chemin choisi d'être médecin est celui pour moi de surmonter cette
Votre peur, elle est liée à quoi? Parce que vous avez un projet, puisque vous êtes étudiant en médecine. Qu'est-ce qui vous fait peur précisément? C'est de ne pas y arriver ou d'avoir trop de responsabilités?
Oui, d'avoir trop de responsabilités.
Parce que beaucoup de monde compte sur vous dans votre entourage?
Oui, bien sûr. Surtout dans la famille.
Donc vous voudriez, en même temps, vous ne voulez pas les laisser tomber, j'imagine, la famille, vous voulez compter pour eux, mais sans souffrir de cette pression, c'est bien cela?
Oui, bien sûr.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire à Oumar? On le sait, quand quelqu'un a la chance de faire des études, souvent il y a beaucoup de monde autour de lui qui va lui demander un coup de main, de soutenir l'un, de soutenir l'autre, de payer ceci ou cela. Qu'est-ce qu'il peut faire pour continuer, mener à bien son projet sans avoir tout ce poids sur les épaules?
Je crois qu'il faut qu'il puisse trouver en lui les ressources qui l'ont amené à faire des études, parce qu'il a été sûrement courageux, il a sûrement été combatif avec ce qui était peut-être les difficultés pour le reste de sa famille, ce qui était sûrement des difficultés pour d'autres, et que au fond il puisse être fier et garder l'intérêt pour ses études, l'intérêt pour aider sa famille et pour aider les autres. Ça, c'est une, je crois que c'est une capacité qu'il a en lui, parce que sinon il n'aurait pas été celui qui fait que toute la famille repose un peu sur lui. Et puis il doit aussi bousculer un peu les autres, c'est-à-dire que lorsqu'on est désigné comme étant le seul responsable d'un groupe pour aider, il faut aussi un peu bousculer ceux qui comptent sur vous. Il s'agit pas de les malmener, il s'agit pas de ne pas les aider, il s'agit aussi de les bousculer. Chacun en soit quand même plus de possibilités qu'il imagine.
Faire baisser cette pression, leur expliquer, je suis d'accord, je suis là pour vous, c'est vrai, mais en même temps, si vous me demandez trop de choses, je n'y arriverai pas. Expliquer les choses simplement. Oumar, c'est quelque chose que vous pouvez faire, justement, engager ce dialogue avec votre famille en disant, bien sûr, je suis là pour vous, mais ne m'écrasez pas sous vos demandes en même temps.
Ok.
Vous avez déjà parlé avec eux directement de cela?
Oui, je parle souvent de ces problèmes avec les parents, surtout avec les papas.
Et ils en ont conscience qu'ils vous en demandent peut-être un petit peu trop, que ça va être dur de travailler à l'université, à la faculté, si en plus il faut toujours expliquer ou il faut toujours faire des promesses d'avenir?
Oui.
Bon, en tout cas, on espère que ce dialogue va bien s'engager avec votre famille, Oumar. On vous souhaite une très bonne journée à Koutiala. On va partir pour la République démocratique du Congo, pour Kinshasa, où l'on retrouve Cédric. Bonjour, Cédric.
Bonjour, docteur.
Le docteur Braconnier vous écoute. Allez-y, Cédric.
Bon, en fait, moi, je suis avocat. Ça fait maintenant 5 ans. Mais malgré ça, je veux faire du futur. Pourquoi? Parce que j'ai des problèmes de santé. Je peux vous assurer que malgré les efforts que je suis en train de fournir, si je me soigne pour telle maladie, il y a encore une autre pathologie. Et tout ça, je me pose plusieurs questions. Je me demande si je serai encore utile à la société. Et justement aussi à ma famille. Le plus dur dans tout ça, c'est que comment fonder une femme? Qu'est-ce qui sera ça de moi? Parce que je sais que je n'ai pas vraiment une longue vie devant moi. Vous imaginez 40% de mon revenu est utilisé pour les soins de santé. Et maintenant, là, j'attends encore une troisième opération. Donc, je suis toujours des problèmes de santé. T'attends le moral. Donc, j'ai. Des fois, je me demande ce que je dois faire. Comment avoir une vie positive pour l'avenir, tout ça, ça m'angoisse. Vous voyez.
Donc, on entend votre anxiété, hein, Cédric, on entend bien cette inquiétude. Vous l'avez dit, je me demande si je suis encore utile à ma famille, utile à la société. Pourtant, vous êtes avocat. Hein, vous avez fait des études, vous avez un superbe métier, vous avez des problèmes de santé. On a bien compris en RDC, compte tenu de l'absence d'assurance santé, eh bien ça mange une bonne partie de vos revenus, donc ça vous complique l'existence. Plusieurs opérations, quand on a préparé l'émission, vous avez dit troisième opération de la hanche. On comprend que ce n'est pas simple tout cela. Docteur Alain Braconnier, qu'est-ce que vous pouvez dire à Cédric pour qu'il ne tombe pas dans une profonde dépression, parce qu'on entend à son ton que ce n'est pas facile.
Oui, je crois que les problèmes de santé sont des problèmes qui peuvent être plus ou moins importants, mais quand ils sont importants comme pour Cédric, il est bien évident que on est débordé, on est, je dirais, submergé par ce qui nous arrive. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les problèmes de santé, aujourd'hui, sont des problèmes dont on connaît d'abord la possibilité meilleure des possibilités d'y faire face, selon les endroits, selon les moyens. Et surtout, on sait très bien aujourd'hui que si on est pessimiste par rapport à ces problèmes de santé, trop pessimiste, on va plutôt les aggraver. Alors que si on a cette combativité, si on a ce qu'on appelle un minimum d'optimisme, et encore plus un optimisme qui permet vraiment de bien y faire face, c'est-à-dire de bien se prendre en charge, de faire en sorte qu'on fait tout ce qu'on peut, on est humain, on ne peut pas tout, mais je crois regarder ces problèmes de santé avec un regard trop pessimiste les aggrave, regarder les santé avec un certain optimisme les améliore.
Cédric,
ça résout pas tout. Hein.
Une question, parce que vous faites opérer, mais à côté, est-ce que vous êtes suivi, justement, parce que vous avez beaucoup de problèmes de santé, est-ce que vous avez pensé à aller consulter, par exemple, un psychologue qui vous aiderait, dans un premier temps, à vous requinquer, comme on dit, à vous renforcer d'un point de vue psychologique, justement, après, pour mieux faire face avec votre corps et mieux, on va dire, vous remettre de ces épreuves physiques. Est-ce que vous y avez déjà pensé?
Non, pas encore. Je pense qu'après cette émission, je vais réfléchir.
Parce que peut-être que ce serait un investissement, on a bien compris, ça vous coûte beaucoup d'argent. Peut-être que ce serait quand même un investissement qui vaudrait le coup. Aller voir une fois, deux fois, un psychologue, lui expliquer par où vous êtes passé, il pourrait vous redonner des forces. Et après, ben, les opérations se passeraient forcément mieux.
D'accord, merci beaucoup pour les fonds.
Docteur Braconnier, on va prendre un autre auditeur en ligne, hein, toujours en République démocratique du Congo. À Bukavu, c'est Claude qui est avec nous. Bonjour Claude.
Oui, bonjour Caroline. Bonjour Bépé.
Docteur Braconnier, vous écoute. Bonjour. On vous écoute Claude, à vous.
Ok, en fait, moi sur la question de l'émission, moi personnellement, ça m'arrive souvent, quand je pense à ma vie future, je me sens mal. Je me sens vraiment mal, car ma conjoncture actuelle, ne me permet pas de réaliser tout ce que j'aimerais devenir d'après moi, dans mon futur. Alors j'ai tellement peur. Alors comment peut-on sortir de cette peur?
Vous avez des peurs, Claude, vous êtes jeune encore. Vous avez quoi comme projet?
En fait, moi, mon projet... En fait, mon rêve, j'aimerais devenir un coach de football. Mais j'ai peur de ne pas réaliser mon rêve. Parce que j'aimerais étudier dans de bonnes écoles. Mais malheureusement, mes parents n'ont pas cette capacité. Donc le moyen de faire étudier dans de bonnes écoles. Okay. Mes rêves, c'est pas que... Bon, soit que les moyens, non pas les moyens chez moi, mais actuellement, j'encadre les enfants footballeurs talentueux parce que de moins de 18 ans.
Et quand vous encadrez ces enfants, quand vous les entraînez au foot, pour l'instant, c'est du bénévolat?
Oui, c'est du bénévolat.
Et vous n'avez pas de moyens, justement, d'encadrer à l'école en touchant un petit peu d'argent, en ayant une activité dans ce que vous aimez, justement, pour à la fois gagner votre vie avec cela, vous préparer, vous former avec auprès des écoles ou des choses comme ça, ou des clubs de quartier?
En fait, bon, tout ça, j'ai d'autres activités, mais ce n'est pas quand même mon rêve. Mon rêve est seulement de devenir un coach. Et c'est pourquoi que j'encadre les enfants. Je suis bénévolant. Mm-hmm. Je peux avoir d'autres activités, mais je ne l'envie pas comme j'apprécie le foot.
Docteur Alain Braconnier, ce qui est intéressant avec ce que dit Claude, c'est qu'il dit qu'en même temps, il a peur du futur, mais en même temps, il dit le mot rêve, il a de vraies envies.
Oui, ça, je crois qu'il est sur le bon chemin. Claude, je pense que vous êtes sur le bon chemin parce que vous avez un rêve. Alors, le rêve, évidemment, il doit se réaliser sous une forme qui n'est pas trop inaccessible. On a le droit d'être pessimiste dans la vie, on a le droit de se dire on va pas y arriver. Je dirais même parfois ça protège d'idées trop grandioses. Mais vous avez un rêve, et ça c'est vraiment la première marche pour avancer du point de vue humain. Vous avez déjà en plus un mouvement qui est déjà d'aider les enfants, d'aider les jeunes. Et évidemment, vous avez le désir de devenir un grand coach de football. Alors, gardez ce rêve. Dites-vous que c'est un rêve, mais déjà devenir un coach de football avec en effet la possibilité peut-être d'en faire une rémunération sous une forme ou sous une autre, d'accéder à des organismes plus généraux, plus publics dans votre communauté. Je crois que c'est bien. Gardez ce rêve. Vous savez ce qui est le plus pénible dans la vie? En effet, c'est de plus avoir de projet. Quand on n'a plus de projet, à ce moment-là, on se déprime. Et quand on est déprimé, on a encore moins de projets. Alors, je trouve que garder cette dynamique que vous avez, ce rêve que vous avez, cette capacité d'en réaliser déjà une première marche, et la vie, elle est faite de marches successives. Parfois, on redescend, parfois, on remonte. Mais on va plutôt dans le sens de remonter si on garde nos rêves.
Voilà Claude pour ce message. Persévérez, hein. Très bonne journée à vous, à Bukavu. On va prendre un autre auditeur, un dernier auditeur. On est vraiment très congolais ce matin. Toujours la RDC, c'est Lubumbashi et c'est Joël qui est en ligne. Bonjour Joël.
Bonjour Caroline Paris. Je salue aussi tes invités.
Oui, docteur Braconnier qui est là avec nous. On vous écoute Joël, à vous.
Ok, j'ai 34 ans, je travaille dans une entreprise il y a de cela pratiquement 2 ans. Souvent, j'ai assisté au licenciement, aux sanctions de certains de mes collègues. Et puis, dès lors, souvent, il m'arrive de ressentir une certaine peur de pouvoir subir aussi, moi aussi, le même sort. Puis, ça m'arrive d'être souvent stressé, je manque d'appétit, mais parfois, ça m'arrive d'avoir peur d'élaborer un projet. Et 3 mois, parce que je me dis, dans 1 mois, je peux être licencié, et puis je n'aurai pas à finir mon projet. Donc, souvent j'ai cette peur-là. Et puis, je veux savoir comment m'en sortir de cette peur. Et c'est ça un peu ma préoccupation.
Voilà, Joël, avec justement des questions très concrètes. Ce contexte de risque professionnel, perdre son emploi, ça c'est du concret. Et il a utilisé le mot stress, hein, docteur Alain Braconnier. Mmh. C'est important ce stress. C'est compliqué quand on est stressé de gérer cette angoisse.
Oui, bien sûr. Quand on est trop stressé, c'est important de se dire il y a quelque chose qui nous inquiète trop. Alors, la perte de son emploi, je comprends que Joël soit stressé puisqu'il a vu des collègues qui ont perdu ce travail et que lui-même pourrait être concerné. Alors, dans une situation comme ça, je crois que pour gérer son stress, on sait aujourd'hui qu'il y a au fond à la fois la possibilité d'analyser bien les raisons de ce stress, est-ce qu'elles sont vraiment aussi objectives qu'on les imagine. Et puis, il y a des moyens qui sont des moyens de dérivation, je dirais. C'est-à-dire que je crois que Joël dit qu'il aime le sport, par exemple. Ou d'autres aiment la nature. Ou d'autres aiment justement se consacrer aux autres. On a tous des moyens de se dégager de nos préoccupations qui deviennent des fixations. Au fond, le problème, c'est en tant qu'humain, on a la capacité de ne pas rester fixé. Mais on a aussi la difficulté parfois de l'être trop. Et que je crois que, par exemple, le sport, moi je suis un grand sportif, je suis psy, mais ça m'empêche pas d'être un grand sportif depuis toujours. Ça étonne parfois mes collègues, parce que le psy, c'est toujours dans la tête. Le sport fait énormément de bien. Aimer la nature, aller vers la nature, s'occuper des autres, vraiment ça détend. Alors c'est une dérivation, c'est vrai que c'est une dérivation, ça n'enlève pas le problème qu'on peut avoir, mais ça permet aussi de déplacer un peu le problème.
Ne pas être obsédé par son problème.
Ne pas être obsédé, de ne pas se fixer, se Quand on se fixe, on se fige.
Joël, vous faites du sport, vous, déjà, ou vous avez des projets d'aller vers de nouvelles activités?
Non, je fais déjà le sport, surtout plus le football, mais chaque matin, au moins, ça m'arrive de m'entraîner, de faire un peu de sport, là. J'ai une discipline souvent que je fais les chaque matin.
Et en pratiquant, vous sentez mieux? Vous sentez justement que vous arrivez un petit peu à vous délivrer de ce fardeau de l'angoisse du travail?
Oui, en tout cas, quand je le fais souvent le matin, et puis souvent la journée passe un peu bien. Mais et puis souvent, il y a les jours où je ne fais pas, un peu la peur revient et puis...
Donc on vous encourage, hein, on vous encourage à continuer, Joël, continuez de faire du sport. Et puis, vous l'avez dit vous-même, quand vous n'en faites pas, vous ressentez l'angoisse revenir. Donc allez-y, c'est sans limite, il n'y a pas de danger. Si vous êtes en bonne santé, faites du sport et on vous souhaite une très bonne journée à Lubumbashi. On poursuit notre échange. Vous soulignez aussi dans votre livre « La peur du futur », docteur Alain Braconnier, que pour certaines personnes, il y a quand même une tendance à se fixer sur les problèmes, une sorte d'obsession, on reste figé. Faut dire qu'il y a aussi les médias, la surabondance d'informations, ces informations qui arrivent à toute rapidité dans notre esprit, notamment les images. Mais malgré tout, vous dites, nous sommes fascinés par les malédictions. Ça veut dire qu'on préférerait d'une certaine façon les mauvaises aux bonnes nouvelles. Vraiment,
on préférait, en tout cas, il y a quelque chose en nous. Vous savez, quand on raconte les contes pour les enfants, ou les histoires, ou les mythes, ou les traditions, etc., on voit comment les enfants sont fascinés. Et on leur raconte des choses qui peuvent être tout à fait
effrayantes, oui.
Bon, alors, ça montre bien que l'esprit humain, il est fait de telle façon qu'il a besoin... Quand on regarde des films d'horreur, par exemple, eh bien, il y a une fascination. Donc, c'est un peu un paradoxe, mais l'esprit humain, il a besoin de projeter à l'extérieur de lui ce qui est angoissant. Il a besoin de trouver des représentations extérieures à lui, des images, des récits. C'est depuis que le monde est monde. Et je suis très favorable à l'idée de maintenir cette capacité, au fond, d'avoir des mythes, des histoires, des contes, etc., parce que ça fait du bien. Pourquoi ça fait du bien psychologiquement? C'est parce que ça met à l'extérieur de soi ce qu'on peut craindre en soi. Et c'est ce qu'on appelle, nous, la projection, bon, peu importe le terme. Et cette projection, elle est utile. Et surtout, ne la perdons pas.
Alors, on va tout de suite, si vous le voulez bien, partir pour le Bénin.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous rejoindre, professeur Prosper Gandao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental et universitaire du Borgou à Parakou. Est-ce que vous aussi, Prosper Gandao, professeur, vous êtes confronté à des patients en situation d'angoisse par rapport à leur avenir?
Tout à fait. Nous sommes aussi confrontés de plus en plus à des patients en situation d'angoisse par rapport à leur avenir. Surtout à cause de tout ce qui arrive véhiculé par la presse internationale. On entend tous les jours à droite à gauche qu'il y a accident par-ci, il y a braquage, il y a les guerres, il y a le manque d'emploi. Donc toutes ces situations font que les gens commencent par avoir peur pour leur avenir, pour ce qu'ils vont devenir. Et de temps en temps, ils viennent en consultation et à travers les entretiens, on sent effectivement qu'ils ont cette angoisse comme une préoccupation.
Est-ce que ce sont davantage des femmes ou des hommes qui consultent pour ces raisons?
À Parakou particulièrement, c'est surtout plus les femmes, les mères, qui ont peur d'abord pour leur foyer et surtout pour leur progéniture. Elles disent, dans un passé récent, nous on avait des situations plus faciles, mais face aux difficultés existentielles, le chômage, les échecs, etc., que deviendrons-nous, puisque on est façonné pour que les enfants viennent prendre, quand ils vont commencer donc pas à réussir dans leur vie, la relève et s'occupent des parents à leur tour. Donc cela les inquiète beaucoup.
Alors vous parlez de ce contexte, est-ce que vous diriez qu'il y a des profils plus vulnérables que d'autres, en quelque sorte des facteurs d'anxiété extrême, professeur Gandao?
Oui, d'abord il y a le passé. Il y a le passé avec tout ce que les gens ont vécu dans leur passé. Les gens vivent beaucoup plus dans leur passé et surtout les faits négatifs du passé que le futur. Ensuite, comme je l'ai dit, la vie devient difficile, l'argent devient fait défaut,
l'emploi fait défaut, les examens deviennent plus difficiles. Alors pour les jeunes, ils ont un avenir plus ou moins incertain. Ils perdent confiance en eux-mêmes et transmettent donc leur inquiétude aux parents qui, à leur tour, également notamment la mère, donc prend pour sien ou sienne les préoccupations de ses enfants en devenir pour vraiment tomber dans la pathologie parfois.
Alors, au-delà de l'écoute, bien sûr, hein, liée à votre profession, professeur Prosper Gandao, quelle prise en charge est associée? Est-ce qu'il y a, par exemple, parfois, dans certains cas, des prescriptions de médicaments?
Oui, bon, quand la pathologie, les pathologies de l'angoisse sont installées, on prescrit des médicaments, les médicaments pour les benzodiazépines, pour ceux qui les connaissent, ou bien les IRSS. Mais la prise en charge, les prescriptions médicamenteuses, ce n'est que pour le début de la prise en charge. Le reste, on peut conseiller beaucoup d'autres choses. J'ai entendu parler, je conseille donc le sport, s'occuper, prendre des activités qui vous occupent. Parce que la solitude, la nuit, vous fait ruminer le passé, ruminer beaucoup de choses noires. Donc on fait tout pour que les gens aient un objectif quotidien, un objectif dans leur vie. Et ça les amène vraiment à intégrer des groupes de prière, par exemple, être dans des clubs de sport ou de gym, ou à s'adonner à des activités où ils sont utiles donc pour leur entourage. Cela donc permet de mettre à distance un peu cette peur permanente qui les envahit.
Merci infiniment pour toutes ces explications, professeur Prosper Gandao. Je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental universitaire du Borgou à Parakou au Bénin.
Parakou, 106.1 FM.
Docteur Alain Braconnier, on l'a entendu avec le professeur Gandao, éviter la rumination, sortir de chez soi, voir du monde, vivre en société tout simplement.
Oui, vivre en société, je trouve que mon collègue du Bénin dit quelque chose aussi d'important, se sentir utile. Alors ça, on le voit vraiment dans le monde du travail, on le voit dans des activités, et se sentir utile, ça fait du bien. On a besoin de se sentir utile. Et je crois que c'est douloureux, c'est vraiment douloureux quand on a le sentiment qu'on est inutile, qu'on ne sert à rien. Parce que ça abat le moral. Alors... Je partage complètement ce qu'a dit le professeur Gandao, c'est-à-dire que on est en face de situations dans lesquelles les maires sont particulièrement inquiètes pour l'avenir, parce que, alors, moi j'aurais tendance à dire, mais c'est peut-être parce que je suis un homme, j'aurais tendance à dire que les maires l'expriment, les pères ne l'expriment pas. Ils veulent trouver toujours des solutions, les pères. Alors que les mères, elles savent exprimer les choses. Elles ont cette capacité de dire « on s'inquiète ». Et donc, elles ont la capacité d'en parler. Parce qu'au fond, l'angoisse, qu'est-ce qui apaise aussi l'angoisse? C'est de la partager.
Il y a quelque chose dont vous parlez dans votre livre et que l'on entend quand on allume la radio, quand on lit les journaux. Vous parlez donc de cette mélancolie du futur. Mais il y a aussi cette fameuse nostalgie du passé. C'était mieux avant, hein, tout ce qu'on entend, l'école, la sécurité, la nourriture, c'était mieux avant. Et tout ça, ça, c'est compliqué du coup pour se projeter dans l'avenir.
Oui, alors c'était mieux avant, il y a des choses qui étaient mieux avant, hein, on ne peut pas le nier. Ça me fait penser quand même à ce que j'évoque aussi dans ce livre, c'est qu'il y a... Les experts ne sont pas d'accord, ça ne nous aide pas non plus. On n'a pas, sur le « c'était mieux avant » ou « pas c'était mieux avant », on n'a plus non plus aussi, disons, inscrit dans notre culture et dans nos cultures et dans notre société des repères importants et symboliques. Donc le « c'était mieux avant », il faut pas le nier, il y avait des choses qui étaient mieux, mais il faut se souvenir aussi de ce qui se passait avant.
Et que demain peut être formidable aussi.
Et que demain peut être formidable si on cherche... vraiment ce qui peut nous aider à trouver dans l'avenir des nouveaux moyens qu'on n'avait pas en médecine, par exemple, on sait très bien, ou dans les moyens d'accéder à la médecine, on sait très bien combien les choses évoluent.
Et on fait des progrès pour de nombreuses personnes. Merci beaucoup, docteur Alain Braconnier, d'avoir répondu à notre invitation. Rappelle le titre de votre ouvrage, La peur du futur, comment ne plus s'angoisser, aux éditions Odile Jacob. C'est le moment de parler de l'activité physique et de la santé sur RFI avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une maladie, maladie de Osgood Schlatter. De quoi s'agit-il?
Bravo Caroline, vous avez réussi à le prononcer.
Je l'ai bien dit.
Osgood Schlatter, en fait, c'est deux auteurs, Osgood et Schlatter, et oui, qui en 1903, eh ben, ont décrit cette pathologie. Alors c'est quoi? C'est vraiment extrêmement fréquent. C'est quand on palpe son genou, on a la rotule, on descend en dessous et en haut du tibia, on sent une petite bosse. Hein, c'est une protubérance qui est visible. C'est la tubérosité tibiale antérieure. Et là va s'insérer le tendon rotulien. Et lorsqu'on fait des efforts en fait de traction, quand on contracte finalement le quadriceps, eh bien on va tracter sur cette protubérance. Sauf que pendant la croissance, et souvent chez le garçon entre 11 et 16 ans, eh bien derrière cette protubérance, il y a du cartilage de croissance qui n'est pas parfaitement soudé. Résultat, c'est d'une zone fragile qui va vite faire mal et qui va s'inflammer. Et c'est pour ça qu'on trouve ça chez le jeune sportif adolescent qui n'a pas fini sa croissance et qui joue au football. Hein, c'est typiquement ça. Alors c'est pour autant une pathologie qui est tout à fait bénigne, même si ça fait mal, même si l'enfant va boiter, eh bien finalement cette pathologie guérit quasiment dans 98% du temps. Et c'est souvent le repos sportif qui permettra vraiment d'atténuer tout cela.
Et docteur Sen, dans quelles circonstances, hein, comment cette pathologie apparaît-elle?
Les causes, c'est quasiment toujours les mêmes. C'est souvent un jeune qui a une croissance rapide. Justement, il y a ce cartilage de croissance qui est important et développé. Il y a une pratique sportive intensive, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette contraction du quadriceps qui est là, avec une surutilisation de l'appareil extenseur. Et puis, il y a souvent aussi une raideur justement de cette chaîne musculaire et avec un déficit souvent du geste technique, c'est-à-dire la personne ne joue pas très bien, ce qui fait qu'il surutilise ce groupe musculaire et donc tire sur cette tubérosité. Alors, le diagnostic, il est très simple à faire. Hein. Il y a une déformation, il va y avoir une bosse qui va apparaître au niveau de cette tubérosité et puis il va y avoir une douleur qu'on va bien reproduire en appuyant sur cette bosse. Et donc là, c'est quasiment un diagnostic qui est très simple et évident à faire. Si c'est chez un jeune sportif qui n'a pas fini sa croissance et avec des douleurs lors des sauts, réceptions de sauts ou des sprints, voilà, on peut quasiment rien que par ça faire le diagnostic d'Osgood Schlatter. Quelquefois, on fera une radiographie et qui montrera justement une déformation de cette tubérosité et ça confirmera définitivement le diagnostic.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Quels conseils on peut donner aux parents qui veulent bien sûr soulager la douleur de ses enfants?
La première chose, c'est d'essayer de faire un repos sportif. C'est-à-dire quand vraiment il y a une crise douloureuse extrêmement importante, vaut mieux un petit peu atténuer, diminuer la pratique sportive. Alors, c'est pas toujours évident parce que les jeunes, quand ils ont envie de faire du sport, on leur dire voilà, il faut arrêter, c'est pas toujours très sympa. Pour pouvoir se soulager, on peut appliquer du froid. Et là, le fait d'appliquer du froid, c'est vraiment un moyen simple. On rentre à la maison, on prend un peu de glace, on met dans un sac, on applique du froid. Ça va vraiment être très efficace et ça va vraiment soulager la douleur. On peut utiliser aussi des antalgiques simples, une fois que le diagnostic a été posé. Par exemple, du paracétamol, sans trop en donner, hein, puisque on sait que c'est aussi un médicament qui peut être toxique. Mais on peut prendre un gramme de paracétamol pour un petit peu soulager les douleurs. Et puis, on peut aller voir aussi son médecin pour voir si on peut pas localement mettre des pommades, par exemple, anti-inflammatoires, ou une chose que moi j'affectionne particulièrement, qui est la mésothérapie, c'est-à-dire de mettre dans la peau, autour de cette zone, justement les médicaments qui vont diffuser et qui vont parfaitement traiter et soulager le patient. Et puis, bien évidemment, on l'a dit, il y a une raideur du quadriceps, de cette chaîne musculaire, et en kinésithérapie, par exemple, on peut essayer d'étirer tout cela pour essayer, ou le jeune sportif peut faire aussi des exercices d'étirement pour essayer de moins contraindre tout cela. La reprise du sport, en tout cas, pourra se faire à partir du moment où il y aura moins de douleurs. Et puis surtout, il faut regarder d'un point de vue global, parce que très souvent, le jeune, il fait plus de sport, il fait plus le foot, mais à côté, eh bien, il va courir dans la cour de récréation, et là, c'est la même chose si on court après les camarades, et on joue au foot après les camarades, c'est exactement la même chose. Alors voilà, Caroline, il me reste à féliciter pour quand même avoir bien prononcé Osgood Schlatter.
Oui, mais je vais pas le refaire une nouvelle fois, j'ai pas essayé de me tromper pour conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassen, Didier Bleu. Demain, nous parlerons des soins associés au traitement du cancer, gestes et activités qui permettent de mieux supporter les effets secondaires. Vos questions, vos témoignages, on les attend au 33 84 22 75 75 et bien sûr sur la page Facebook de l'émission. À demain.